la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » et cette semaine, je lire deux livres qui, presque par hasard, me sont tombés entre les mains et qui se font écho. L'un est de Jean Rouault, « L'avenir des simples », publié chez Grasset en 2018. L'autre est de David Van Reybrouck, « Contre les élections », publié chez Actes Sud dans la collection Babel en 2014. Les deux parlent de notre société contemporaine, les deux posent des questions, affirment certaines choses, mais surtout questionnent la société telle qu'elle avance et surtout ce que les hommes en font et quelles organisations sociales font que la vie, petit à petit, devient compliquée sur Terre. C'est en tout cas le principe du livre de Jean Rouault, qui n'est pas dans sa série de livres romanesques, mais plutôt dans cette forme d'essai qu'il a développé depuis pas mal de temps. Jean Rouault est un auteur qui a beaucoup publié, et chez Grasset notamment, il y a plusieurs livres qui sont comme des essais, des réflexions à la fois sur la littérature, mais sur aussi des choses un peu plus vastes, comme ici dans L'avenir des simples, une réflexion sur la société contemporaine qu'il vit, qu'il traverse, des questionnements sur l'écologie, sur les écocides en cours, sur l'effondrement, sur la politique, sur la consommation, sur le consumérisme, sur le capitalisme, des réflexions surtout sur notre consommation de viande, notre consommation carnée. Jean Rouault qui se dit légumiste pour éviter tout anglicisme et qui travaille à éveiller d'une certaine manière les consciences et la sienne peut-être en premier lieu pour nous mettre en face de nos contradictions. Peut-on se prétendre vegan, végétarien ou légumiste si on consomme encore par exemple de la crème, du beurre, des œufs? Et ce n'est pas seulement sur du détail que s'attarde Jean Rouault, mais sur globalement comment les choses se délitent au fur et à mesure dans une recherche effrénée du profit qu'il fustige, qu'il montre, qu'il détaille dans les courts chapitres qui forment ce livre qui fait en tout et pour tout 250 pages et qui a donc été rédigé en 2018 et qui pourtant déjà fait saillie sur beaucoup de points que nous avons pu traverser, vivre avec la pandémie et les différents confinements et les différentes mesures qui ont pu être prises pour lutter contre cette épidémie. C'est presque déjà un peu intuitif dans le texte de Jean Rouault. Il est difficile d'en extraire un fragment, mais c'est comme très souvent chez lui, brillamment écrit, avec des références, du vocabulaire et puis des formulations que je trouve souvent très très belles et très poétiques malgré la dureté, la violence parfois du propos ou plutôt des situations qu'il décrit. Voici donc un petit extrait de la page 198 et 199. Le XXe siècle l'a tragiquement démontré. Toute prise de pouvoir violente conduit à des gouvernances violentes. Il faut l'hystérie idéologique d'un Badiou pour considérer que plusieurs centaines de milliers de morts ne constituent pas en soi un empêchement à l'établissement d'un gouvernement véritablement communiste. Après, ce sera tellement bien qu'on saluera cette hécatombe. Comme si, après ça, ne pouvait être autre chose qu'un état policier totalitaire dénonçant et punissant toute déviance pour un carré de chou clandestin, une icône au fond d'une armoire, un refrain venu d'ailleurs. La preuve en a également été faite. Toute prise de pouvoir violente conduit à des inégalités violentes. Et pour ce qui est de l'exercice du pouvoir, il ne peut se concevoir sans une collaboration des élites. Tout pouvoir est un pouvoir de collaboration au service de l'ordre établi. Le problème du pouvoir n'est pas simplement d'en user à discrétion, c'est, pour se maintenir, d'offrir des parts de pouvoir à toute une armée de petits chefs qui, mandatés, ont dans les mains de quoi humilier, exploiter, imposer. Tout pouvoir ne tient que par ce centralisme bureaucratique, toute une armée jouissant plus ou moins sadiquement de son impunité en se retranchant derrière des ordres. C'est exactement ce que Klaus Barbie expliquait à Jean Moulin quand il lui plongeait la tête dans la baignoire. On torture par obéissance, on avilit au nom de la loi. La seule parade, c'est de limiter les pouvoirs, d'en donner le moins possible à ceux qui le convoitent. Un pouvoir limité fera toujours moins de dégâts. Et ne pas accorder la moindre confiance à quiconque affirme qu'une fois là-haut, tout ira pour le mieux. Pour certains, oui. Toutes les révolutions parvenues à leur fin n'ont abouti qu'à changer les membres de la caste des nantis. Dans ses essais, George Orwell croit encore à la révolution, ou fait semblant d'y croire. Il vivait sur le reliquat de cet espéranto révolutionnaire qui avait jalonné le siècle précédent de ses expériences ratées. Sa lucidité impeccable sur la dénonciation du stalinisme ne l'empêchait pas de rêver à une sorte de coup de force. Mais il n'y a rien à espérer de cette tragédie éculée de la prise d'assaut d'un palais d'hiver. Vieux rêve écroulé, ne survivant qu'à travers la psalmodie de mantras, enivrante formule qui monte à la tête comme un mar de jouvence le temps d'un défilé. Défilé relève de la nostalgie. Toutes les mises en garde des Cassandres qui prédisent la faillite généralisée du système, la fin du pays privé de ses moyens d'action, de son contrôle monétaire, dénoncent les joysticks du libre-échangisme piloté depuis Bruxelles, Berlin et Washington, et se soldent par un échec. Cassandre est un rôle comme un autre, dans la pièce dont l'intrigue conduit à la dépossession de nos vies. Cassandre est encore un doigt levé qui, de la lune, pointe la face cachée. La métaphore des savants, des experts qui montrent la lune de leurs doigts et que nous suivons et que nous regardons est le fil rouge qui traverse ce livre « L'avenir des simples » de Jean Rouault. Et il montre, il dénonce, il contre ces experts justement et ces personnes qui nous disent comment vivre, suivre, penser. C'est un livre qui étonnamment est assez remuant, assez brusque pour cet homme plutôt délicat qu'est Jean Rouault. « L'avenir des simples » aux éditions Grasset, je l'ai trouvé en bouquinerie, mais il coûte originellement 19 euros. Il est paru en 2018. Et alors, on m'a offert, parce que ces temps-ci, c'était peut-être salutaire, un livre de David Van Reybrouck qui s'intitule « Contre les élections », traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin et Philippe Noble dans la collection Babel des éditions Actes Sud, un livre originellement écrit en 2013. À le lire, je pense qu'il y a eu quelques ajustements plus contextuels pour traverser le temps. Ce livre a pour titre « Contre les élections » qu'il faut comprendre dans un sens philosophique, c'est-à-dire une critique des élections pour en comprendre le fonctionnement. Et c'est d'ailleurs de cette manière assez philosophique qu'est construit le livre, qui fait en tout et pour tout quelques 220 pages avec des notes, des appendices. Voici le sommaire, symptômes, diagnostic, pathogénèse, remède et conclusion. J'en suis dans la troisième partie, pathogénèse. Et donc David Van Reybrouck va analyser, comprendre qu'est-ce qui fait la dite démocratie et qu'est-ce qui fait qu'elle, en ce 21e siècle naissant, s'essouffle durablement, quand bien même elle est pourtant représentée de manière beaucoup plus vaste qu'auparavant dans les différents états du monde. Beaucoup de pays se disent démocratiques, ont procédé à des élections. De quelle manière? C'est tout l'enjeu de cette analyse. Contre les élections reprend l'histoire du pouvoir, l'histoire de comment les hommes font société et s'organisent, et à partir de quels exemples, de quelles révolutions, de quelles contestations les états, les pouvoirs se mettent en place, de quelle manière? Une démocratie certes, mais comment sont élus les représentants? Par des élections justement, par du tirage au sort, par cooptation, par naissance. Tout cela est détaillé dans ce livre très fourni, avec beaucoup d'exemples, beaucoup de références évidemment, des diagrammes même, pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants. C'est fort bien écrit et tout à fait lisible et digeste. On n'est pas dans un jargonnage qui pourrait éloigner certains, mais c'est aussi assez exigeant et mérite d'y prêter une grande attention, car l'auteur, si j'en comprends à peu près la substance là où j'en suis, c'est-à-dire une sorte de grosse moitié du livre, va essayer de comprendre pourquoi les élections, le fait d'élire des représentants, de les porter au pouvoir, eh bien, contredit quelque part la notion même de démocratie, puisqu'on élit des représentants, on ne représente pas soi-même, nous-mêmes, le pays. Il travaille à mieux comprendre le système du tirage au sort qui avait lieu dans la démocratie athénienne, dans la Grèce antique. Mais de quelle manière avait-il lieu? Seulement une petite élite pouvait être tirée au sort, principalement les hommes. Et comment est-ce que ceci pourrait être rediscuté et remis en place pour mieux représenter justement le dit peuple? C'est une des pistes possibles de ce livre « Contre les élections » qui fait du bien, permet de mettre une perspective historique, sociologique et politique dans les différents combats de pouvoir et de carrière qui se font dans les élections qu'on peut connaître, notamment dans les pays occidentaux ces dernières années. On l'a vu encore très récemment à un niveau local et on va le voir dans quelques mois à un niveau national. Difficile d'en extraire là aussi un fragment sans en perdre le sens complet ou le contexte, mais voici, page 68, un rien du diagnostic de David Van Reybrouck. Si les pères fondateurs des États-Unis et les héros de la Révolution française avaient su dans quel contexte leur méthode devrait fonctionner 250 ans plus tard, ils auraient certainement conçu un autre modèle. Imaginons que l'on doive élaborer aujourd'hui une procédure pour apprendre à connaître la volonté du peuple. La meilleure solution serait-elle vraiment de demander aux citoyens de se rendre tous les 4 ou 5 ans dans un bureau de vote où ils choisissent dans la pénombre d'un isoloir non pas une idée, mais des noms sur une liste qui ont fait l'objet pendant des mois d'une actualité frénétique dans un environnement commercial qui a tout intérêt à cette agitation. Et oserions-nous encore dire de ce curieux rituel archaïque qu'il est le grand moment de la démocratie? Nous avons réduit la démocratie à une démocratie représentative et la démocratie représentative à des élections. Un système valable s'est trouvé ainsi confronté à de graves problèmes. Pour la première fois depuis les révolutions américaines et françaises, les prochaines élections pèsent plus lourd que les précédentes. Il s'agit là d'une transformation effarante. Le passage aux urnes n'accorde plus qu'un mandat très provisoire. Nous ramons avec des rames toujours plus courtes. La démocratie est fragile, plus fragile qu'elle ne l'a jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale. Si nous n'y prenons garde, elle dégénérera peu à peu en une dictature des élections. Ce processus n'a tout compte fait rien d'étonnant. Combien de découvertes de la fin du XVIIIe siècle sont-elles encore utilisées en ce début du XXIe siècle? La diligence? La montgolfière? La tabatière? Il faut bien tirer une conclusion qui ne fait guère plaisir à entendre. De nos jours, les élections sont un outil primitif. Une démocratie qui s'y limite est condamnée à mort. C'est effectivement comme si nous réservions l'espace aérien aux montgolfières sans tenir compte de l'apparition des câbles à haute tension, des avions de tourisme, des nouvelles évolutions climatiques, des tornades et des stations spatiales. L'autonomie transforme le monde. Qui se voit accorder la parole? Voilà la question cruciale. Jusqu'à la découverte de l'imprimerie, seuls quelques individus comptaient en Europe. Les abbés, les princes et les rois décidaient des textes qui pouvaient ou non être copiés. L'imprimerie a soudain permis à des milliers de personnes d'acquérir aussi ce pouvoir. Cela a entraîné le déclin de l'ancienne autorité et la découverte de Gutenberg a assuré la transition du Moyen-Âge à la Renaissance. Aujourd'hui, avec l'arrivée des médias sociaux, on dirait que tout le monde possède une imprimerie. Et ce n'est pas tout, on dirait que tout le monde est à la tête d'un scriptorium. Le citoyen n'est plus lecteur mais rédacteur en chef, ce qui entraîne un bouleversement du rapport de force. De grandes entreprises solidement implantées sont contraintes de s'incliner devant les actions de quelques clients mécontents. Des dictatures qui passaient pour indéboulonnables perdent leur emprise sur les masses populaires qui s'organisent à travers les médias sociaux. Les voix des composantes de la société ne soutiennent plus les partis politiques mais les mettent en pièces. Le modèle classique, patriarcal, que les partis appliquent pour défendre des intérêts ne fonctionne plus à une époque où le citoyen est devenu plus autonome que jamais. La démocratie représentative est par essence un modèle vertical, mais le XXIe siècle devient de plus en plus horizontal. Jan Rotmans, professeur néerlandais en gestion de la transition, a dit récemment « Nous allons du centre vers la périphérie, du vertical vers l'horizontal, d'un mouvement non plus de haut en bas, mais de bas en haut. Il nous a fallu plus de 100 ans pour construire cette société centrale, de haut en bas, verticale. Toute cette façon de penser est maintenant sans dessus-dessous. Nous avons donc beaucoup à désapprendre et à apprendre. Le plus gros obstacle est dans notre esprit. Les élections sont le combustible fossile de la politique. Autrefois, elles stimulaient considérablement la démocratie, de même que le pétrole dynamisait l'économie. Mais il s'avère maintenant qu'elles engendrent des problèmes gigantesques et nouveaux. Si nous ne réfléchissons pas d'urgence à la nature de notre combustible démocratique, une crise majeure menace notre système. À une époque qui se caractérise par un malaise économique, un système médiatique déchaîné et une culture en pleine transformation, continuer de s'accrocher uniquement aux élections revient presque à enterrer délibérément la démocratie. Comment a-t-on pu en arriver là? la suite de ce diagnostic et quelques propositions dans le livre de David Van Reybrouck, Contre les élections, édition Babel Actes Sud, traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin et Philippe Noble.
Les villages, morceaux de béton circulent dans les airs.